VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et René Armanongbo avec vous pour Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 26 novembre 2019. Voici le sommaire. Mort de 13 soldats français de l'opération Barkhane, le gouvernement du Mali et le président du Burkina Faso ont exprimé leur solidarité avec la France. En République démocratique du Congo, après Béni, les populations de Goma et Boutembo sont aussi en colère contre l'inaction de l'ONU. Maltraitance d'enfants dans une école coranique au Sénégal, nous y reviendrons dans notre page magazine. Et puis ici aux États-Unis, les Américains s'apprêtent à commémorer le Thanksgiving. L'une des plus grandes fêtes traditionnelles du pays. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Tout de suite, le journal. Hier, lundi 25 novembre, 13 militaires français engagés au sein de l'opération Barkhane sont morts lors d'un accident entre deux hélicoptères. Le président Ibeka a exprimé sa solidarité avec la France après la mort des 13 soldats. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est dans la vaste zone du Liptako-Gourma, frontière commune entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, que 13 soldats français ont trouvé la mort dans un combat contre les terroristes. C'est un abordage entre deux aéronefs évoluant à très basse altitude qui serait à l'origine de cet accident. Ils participaient à une opération d'appui au commando de la force Barkhane qui était au contact d'un groupe armé terroriste. Engagé au sol depuis quelques jours, le commando traquait un groupe de terroristes décelé quelques heures plus tôt, qui évoluait en pick-up et en moto. Très rapidement, ils ont été renforcés par des hélicoptères. Un hélicoptère Cougar a alors été engagé. Vers 19h40, pendant que la manœuvre destinée à préparer l'engagement de l'ennemi, l'hélicoptère Cougar et un Tigre sont rentrés en collision, s'écrasant à courte distance l'un de l'autre. Aucun militaire embarqué n'a survécu. Le président français salue la mémoire de ces militaires français car ils sont morts pour la France et dans le combat contre le terrorisme au Sahel. Ibrahim Boubacar Keïta s'incline devant leur mémoire et exprime la solidarité du Mali avec la France et prie pour le repos de l'âme de ces 13 soldats. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans un message destiné au président Emmanuel Macron et posté sur Twitter, le président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore a également salué la mémoire des soldats disparus et a adressé ses sincères condoléances à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble du peuple français. Les Guinéens ont à nouveau manifesté en masse mardi à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Cette marche aux couleurs rouges de l'opposition est le dernier acte en date de la contestation lancée le 14 octobre par le Front National de Défense de la Constitution, un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile. Au Nigeria, des milliers de personnes ont fui leur foyer après de violentes attaques perpétrées par des bandits armés contre 10 villages de l'État de Niger dans le centre du pays. De nombreux hommes armés ont fait irruption à moto dans le district de Siruro entre vendredi et lundi. Ils tiraient en l'air et incendiaient des maisons. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées à Béni et dans la ville voisine de Boutembo dans de nouvelles manifestations pour dénoncer l'inaction des autorités congolaises et des Nations Unies face aux tueries de civils attribuées au groupe armé ADF. Le bilan a été confirmé par un porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa. Par ailleurs, la tension est vive à Goma ce mardi. Les activités sont restées paralysées dans plusieurs quartiers de la capitale du Nord Kivu. Le point avec Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Comme hier lundi, les manifestants disent soutenir la population de Béni qui était dans la rue pour demander plus de sécurité de la part de l'armée congolaise et de la force des Nations Unies en RDC. Tout l'avant-midi de ce mardi, s'est fait un jet de cache-cache marqué par les jets de pierre contre les gaz lacrymogènes entre police et manifestants. Des manifestants qui ont barricadé les routes principales avec des pierres, ils ont aussi brûlé les pneus sur la chaussée. Les écoles et universités ont suspendu les cours. L'une des bases de la MONUSCO au quartier Katindo ici à Goma a été attaqué, ainsi qu'un bus scolaire d'une école publique. À son arrivée dans la mi-journée ici à Goma, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a appelé la population au calme.
À partir d'aujourd'hui, il y aura un couvre-feu pour garantir la sécurité de la population. Nous allons renforcer les patrouilles policières. Vous savez que la MONUSCO est ici, ce sont nos partenaires. Nous demandons encore une fois à nos populations de garder leur calme. Je sais que c'est difficile quand on est frappé comme on l'est souvent dans la région de Béni.
La situation est redevenue calme cet après-midi à Goma. Charlie Kasereka, Goma, VOA Afrique.
Toujours en RDC, Kinshasa, la capitale congolaise, est inondée. Au moins 41 personnes sont mortes après de fortes pluies, selon le vice-gouverneur de Néron Mbungu, qui ajoute que les dégâts matériels et humains sont énormes. Les recherches continuent. Au Soudan, le gouvernement a annulé aujourd'hui une loi qui limitait sévèrement les droits des femmes. Cette loi pour actes indécents et immoraux était en vigueur depuis 30 ans. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Conseil des ministres a abrogé cette loi sur l'ordre public dans toutes les provinces. Mais la décision doit encore être ratifiée par le Conseil souverain. Depuis 1989, Omar el-Béchir a appliqué une version très rigoriste de la charia à la loi islamique et limitait considérablement les droits de femmes dans le pays pendant des décennies. Des milliers de Soudanaises ont été fouettées, condamnées à de lourdes amendes et même emprisonnées pour tenue indécente ou consommation d'alcool. Les activistes affirmaient que cette loi a été utilisée comme une arme, les forces de sécurité arrêtant régulièrement des femmes même pour avoir assisté à des fêtes ou porté des pantalons. Lundi, des centaines de Soudanaises ont manifesté à Khartoum à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, premier rassemblement du genre au Soudan depuis des décennies.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, estime que la solution en Algérie réside dans le dialogue démocratique et le respect de la liberté de manifester. La solution, c'est le dialogue dans lequel chacun puisse exprimer sans crainte ses opinions, a déclaré le ministre Le Drian en visite à Marseille. L'Algérie est le théâtre d'un mouvement de contestation depuis 10 mois. De hauts responsables américains se sont entretenus le 24 novembre avec l'homme fort de l'Est libyen afin d'échanger sur des mesures pour parvenir à une suspension des hostilités. Lors de cette rencontre, la délégation américaine s'est déclarée gravement préoccupée par l'exploitation du conflit par la Russie. Moscou avait démenti début novembre des informations sur l'arrivée de 200 mercenaires russes en Libye. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a exhorté mardi l'Égypte, proche allié des États-Unis, à respecter la liberté de la presse. La police égyptienne a perquisitionné dimanche les locaux du média indépendant Mada Marsr, arrêtant brièvement 3 de ses journalistes. Au Zimbabwe, l'environnement n'est pas épargné par la crise économique. Les coupures d'électricité qui paralysent depuis des mois l'essentiel du pays y ont relancé la production de charbon de bois qui détruisent ses forêts. Si le monde en remet encore à plus tard les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe climatique ne pourra plus être évitée, alerte l'ONU, le point avec Nathalie Barge.
Pour garder un espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an jusqu'en 2030, selon le rapport annuel du Programme des Nations Unies pour l'environnement, soit un total de 55% de baisse. Tout retard au-delà de 2020 rendrait rapidement cet objectif hors de portée. Et pour espérer limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, il faudrait réduire les émissions de 2,7% par an. Si les émissions se poursuivent au rythme actuel, la planète pourrait se réchauffer jusqu'à 3,9 degrés d'ici la fin du siècle. Et les températures vont monter, même si les États signataires de l'accord de Paris respectent leurs engagements. L'ONU assure toutefois qu'il est encore possible de rester sous 2 degrés Celsius et même sous 1,5, mais les signataires doivent multiplier leurs ambitions par 3 pour atteindre le premier objectif et par 5 pour le second. Et ces engagements doivent être suivis d'actions immédiates.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Trump part aujourd'hui à la rencontre de ses partisans pour un meeting politique en Floride et un séjour dans son club de golf. Peu avant d'embarquer, M. Trump a gracié, conformément à la tradition du Thanksgiving, deux énormes dindes nommées Bread and Butter. Donald Trump tiendra un meeting mardi soir à Sunrise en Floride, un des États. Et voilà pour l'actualité sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nanit Talani.
La Tanzanie obtient un prêt syndiqué de 1 milliard de dollars de la banque TBD pour des projets d'infrastructure, dont une nouvelle voie ferrée de 2561 km reliant son principal port de Dar es Salaam à l'océan Arctique. Ce réseau ferroviaire électrique à grande vitesse devrait stimuler les échanges commerciaux avec les pays voisins enclavés de la région. La Tanzanie cherche aussi à obtenir 500 millions de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre de divers autres projets. À compter de ce mois, les produits contenant du tabac issu du Malawi sont interdits d'entrer aux États-Unis sous prétexte que ce tabac est produit grâce au travail forcé des enfants. Ce gel met en danger l'économie du Malawi, dont la principale source de devises étrangères reste le tabac. Le pays produit 6,6% du volume mondial de cette matière première qui contribue à 25% de ses recettes fiscales. Pour terminer, le FMI, le Fonds monétaire international, exhorte l'Afrique du Sud à engager des réformes drastiques pour doper l'investissement et relancer la croissance si elle veut sortir son économie de la crise. Depuis la crise financière mondiale de 2008, ce pays tourne au ralenti, victime d'une croissance molle avec 1,9% prévu en 2019 et un taux de chômage endémique de 29%. Le taux d'endettement a atteint 60,8% du PIB et devrait augmenter à 71% en 2022-2023.
Passons à présent à la page sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eman, bonsoir à tous.
Esaü du Bénin privé de son stade en Coupe CAF.
Oui, Esaü FC ne pourra pas utiliser les installations du stade René Pleven de Cotonou pour ses matchs de poule en Coupe de la Confédération. Ce stade, qui a pourtant habité toutes les rencontres préliminaires de la compétition, n'a pas été homologué par la CAF. Le club béninois jouera donc ses matchs de la phase de groupe à Porto Novo, entre autres griefs portés à l'encontre du stade René Pleven de Cotonou. La vétusté de la pelouse en synthétique, le manque de cabines de presse, de salles de conférence de presse, des vestiaires pas aux normes. Esaü fera donc face au DC Mutoma Pembe de la RDC le 8 décembre au stade Charles de Gaulle de Porto Novo.
Le Zamalek boycotte la Supercoupe d'Afrique.
Oui, Mortada Mansour, le président du club égyptien, a annoncé la décision du club de ne pas disputer la finale de la Supercoupe d'Afrique, programmée par la CAF le 14 février prochain au Qatar. Cette Supercoupe d'Afrique devrait opposer l'espérance sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions, au Zamalek d'Égypte, champion de la Coupe CAF. Le club Kairot explique cette décision par la tension qui oppose l'Égypte au Qatar. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 2017.
Achille Webo, nommé entraîneur adjoint d'Istanbul, Başakşehir.
L'ancien international camerounais de 37 ans entame ainsi sa reconversion. Achille Webo va aider l'entraîneur en chef Okan Buruk pour relever le niveau du club turc qui est en quête du premier titre de son histoire. Après son aventure espagnole à Osasuna, Leganés et Majorque, l'ancien attaquant des Lions Indomptables a entamé celle turque avec Istanbul Başakşehir entre 2011 et 2013. Achille Webo a mis fin à sa carrière de joueur depuis la résiliation de son contrat en 2018 au National en Uruguay.
Ligue des champions ce soir.
Oui, sous l'impulsion d'Anrel Di Maria et du Sénégalais Idrissa Ganagé, le PSG avait éteint le Real lors de la première journée au Parc des Princes. Une victoire aux aires de revanche au Bernabeu qualifiera les Madrilènes pour le tour suivant. Un nul suffira aux Parisiens pour s'assurer la tête du groupe A. La première place, c'est ce que vise aussi le Bayern Munich en déplacement chez l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans ce groupe B, Tottenham et son nouvel entraîneur José Mourinho ont une qualification à obtenir contre l'Olympiakos. La tâche sera plus aisée encore pour Manchester City, qui n'a besoin que d'un match nul contre le Shakhtar Donetsk pour atteindre son objectif. À suivre enfin, le choc Juventus-Turin-Atlético Madrid. Les partenaires de Cristiano Ronaldo sont déjà qualifiés, au contraire des hommes de Diego Simeone, qui le seraient seulement en cas de victoire.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irune Hermann Rubo, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, 13 soldats français sont morts hier dans le crash de deux hélicoptères. En 2013, ce sont les soldats français de l'opération Serval qui ont stoppé l'avancée des djihadistes vers Bamako. Depuis, la France a maintenu une présence militaire avec l'opération Barkhane. Bagassi Koura a joint à Gao notre confrère Modibo Tandina.
La force Serval, au départ, c'était vraiment un salut pour le Mali, parce que si Serval n'était pas venu en janvier 2013, le Moudjahou allait se retrouver, Moudjahou, Al-Qaïda et tout ce qu'il y avait ici comme force occupante allait se trouver jusqu'à la frontière du Sénégal. Parce que l'administration malienne, les soldats, les forces de défense et de sécurité, tout le monde fuyait. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs la lettre du président de la transition à l'époque, Donkunda Traoré, qui a écrit à la France pour demander une intervention en réalité aérienne. C'était bien salvateur pour le Mali.
Comment était la vie avant l'arrivée des troupes françaises?
Très morose. Des chicotes, des amputations, la charia comme il le voulait. C'était vraiment terrible, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Voilà pourquoi l'arrivée de Serval a été saluée.
Aujourd'hui, des populations ont des doutes sur la mission française au Mali. Parlez-nous-en.
Oui, mais naturellement, parce que Serval était venu pour lutter contre le terrorisme dans le nord en général, à partir de Kona. Kona, ça a marché, Tombouctou aussi, Gao. Et puis après, ça s'est terminé là. Pratiquement, c'est Serval qui a même interdit à l'armée française d'arriver à Kidal.
L'armée malienne
a repoussé les terroristes dans la zone de Kidal et s'est bouclé pour le Mali. Malgré tout ce qui a été fait, Kidal est encore sous l'emprise des terroristes. La preuve, c'est qu'il y a de là-bas. Alors, vous voyez, c'était vraiment une partie, parce que c'était les trois quarts du Mali, quand même, à peu près 800 000 km carrés. Aujourd'hui, la région de Kidal, qui fait banalement 400 000 km carrés, n'est pas sous le contrôle du Mali, c'est plutôt sous le contrôle de la France et des forces comme SEMA, en Sardine, et tout ça et tout ça.
C'était à l'instant Modibo Tandina joué à Gao.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les forces onusiennes et étrangères sous le feu des critiques dans leur pays d'accueil. Des manifestations ont éclaté à Beni, dans l'est de la RDC, contre la MONUSCO, avant de se propager dans d'autres localités comme Goma et Butembo. Il est reproché aux casques bleus leur inaction face aux attaques des groupes armés. Au Mali également, la présence de la mission de l'ONU et des forces françaises est fortement critiquée. Qu'est-ce qui explique ce sentiment envers les troupes étrangères? Comment rendre leur mission plus efficace et mieux protéger les civils? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
Une affaire de maltraitance d'enfants défraie la chronique au Sénégal. Un maître coranique, un menuisier métallique et des parents d'élèves sont envoyés en prison dans la région de Louga, dans le nord du pays. Ceci après la découverte d'enfants enchaînés dans une école coranique. Les prévenus doivent s'expliquer au juge demain. Pour plus d'explications, Abdourahmane Dia a joint à Dakar le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama. On l'écoute.
Le maître coranique et les parents, ainsi que le ferrailleur, seront jugés demain au tribunal de Louga. Donc le procureur de la République a fait son travail et nous attendons à ce que le juge qui va juger cette affaire applique la loi. Ils sont poursuivis pour maltraitance et mise en danger de la vie des enfants. Les parents sont poursuivis pour complicité. Et nous attendons à ce que la loi soit appliquée de façon ferme contre toutes ces personnes. Cette pratique semble être une pratique très courante dans les daras, très ancienne dans les daras. Il faut donc que l'État sévisse pour qu'elle puisse prendre fin.
Et il y aurait aussi des pressions sur les autorités judiciaires. On a également vu la sortie de plusieurs membres de cette communauté de maîtres coraniques pour soutenir leurs collègues.
Oui, vous savez, tous ces maîtres coraniques sont opposés à la réforme de l'enseignement coranique au Sénégal. Non seulement ils veulent continuer à exploiter les enfants, mais ils veulent continuer à utiliser le châtiment corporel, la mendicité. Et il appartient à l'État de respecter ses engagements internationaux. L'État s'est engagé récemment devant le Comité des droits de l'homme à mettre fin à la mendicité des enfants, à mettre fin à la maltraitance des enfants, en adoptant notamment le Code de l'enfant dont le projet de loi existe depuis maintenant plusieurs années, mais n'est pas encore voté à l'Assemblée. Donc il faut que ce projet soit adopté, que ce Code soit adopté. Ce Code prohibe non seulement la mendicité des enfants, mais toutes les formes de maltraitance des enfants, y compris dans les écoles coraniques. Jusqu'ici, les mères coraniques se sont opposées à son adoption, mais je crois que le moment est arrivé pour que la société civile pousse pour son adoption et qu'évidemment, elle puisse permettre de mettre fin à ces maltraitants.
Et pourquoi, en fait, la réforme traîne et pourquoi même l'interdiction de la mendicité des enfants traîne? Est-ce que l'État aurait peur de froisser certaines couches de la société?
Absolument. Vous savez, les pressions dont on parle depuis quelques jours viennent de marabouts très puissants. On parle de pressions qui viennent d'une grande cité religieuse du pays. Donc ce sont des marabouts puissants qui soutiennent ces maîtres coraniques. Ces maîtres coraniques sont des talibés de ces marabouts-là. Donc ils les soutiennent. Malheureusement, ça ne peut pas continuer. L'État ne peut pas continuer à laisser faire cette maltraitance des enfants. Donc il faut que clairement ces grands marabouts, parce que l'attitude est déplorable et que cette maltraitance n'est ni recommandée par le Coran, nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna, dans les hadiths, on trouve une recommandation qui dit que pour éduquer un enfant, il faut le maltraiter. Ça n'existe nulle part. Au contraire, ce type de maltraitance est prohibé par toutes les religions révélées.
Le militant des droits humains, Seydi Gassama.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, les communautés rurales sont pour la plupart sans information au sujet de l'implantation des grands investissements sur leurs terres. Ce que dénonce un groupe de leaders des populations concernées qui dit subir par ailleurs des menaces et divers abus dans la défense de leurs droits. La semaine dernière, ces leaders ont porté une nouvelle fois leurs revendications auprès d'une organisation de la société civile en présence des responsables de l'administration de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Ils sont presque aux abois. Les chefs traditionnels, les membres de communautés riveraines des projets agro-industriels et les spécialistes des questions environnementales. Pour eux, il y a un déficit criard d'informations dans les transactions foncières des agro-industriels au Cameroun.
Par rapport à l'exploitation forestière, nous on savait qu'on fait une réunion d'informations.
Méthode Rude, chef traditionnel 3e degré à Meyo 3. Dans la région du sud.
Quand ils viennent, ils attribuent des forêts aux gens qui viennent faire des champs. Il n'y a pas même par rapport à des réunions d'information. On veut revendiquer nos terres, mais s'adresser à qui? Si on avait au moins le cahier des charges, on pourrait dire que voici, vous avez dit que vous allez faire ça. Quand il faut donc vérifier si effectivement l'octroi de ces terres-là a suivi les normes, on n'a même pas d'abord là où prendre l'information.
La loi reconnaît aux populations riveraines les droits d'usage et même des revenus en cas d'investissement à grande échelle. Au village Kilombo, dans la région du sud, les Baguili, l'un des peuples autochtones du Cameroun, peinent à obtenir les informations sur les activités d'un agro-industriel de production d'huile de palme. Solange Kobakoumé est une résidente du village Kilombo.
Quand la socafam s'est installée, ça a d'abord tué une bonne partie de notre forêt. Vous n'êtes pas sans ignorer que le mode de vie de Baguili, c'est la forêt. Il fallait d'abord qu'ils viennent nous consulter, qu'ils viennent nous donner d'abord l'information. On devait déjà connaître nos droits. La durée même des travaux, on n'a pas été informé.
Dans le village Makouré 1, proche de la ville portuaire de Kribi, les communautés sont elles aussi en froid, avec une société agricole installée sur leur terre depuis 2009. En lieu et place d'un cahier de charges, cette société a plutôt signé un protocole d'accord avec les populations. Emmanuel Mbouenzoundi, habitant du village Makouré 1, au sud du Cameroun.
Dans ce protocole d'accord, il est dit qu'il va réhabiliter les salles de classe, donner les petits groupes vergenettes pour les veillées mortuaires, créer les plantations villageoises, donner une salle multimédia pour l'école. La cour n'a pas de lumière. Vous vivez dans le noir toute votre vie. C'est quand vous êtes mort qu'on vient éclairer votre cadavre. Ça servira à quoi? Je me dis que c'est un contrat de dupe.
Les plaintes des populations sont réelles, a admis un responsable de l'administration lors de la rencontre avec quelques leaders des communautés. Pauline Francine Bidjogo, chef de service des implantations humaines au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Il serait peut-être souhaitable que les ONG avec lesquelles ils travaillent, comme le COD, se rapprochent de la protection civile au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il serait également intéressant de savoir quelle est la structure de l'État qui représente l'État dans ce cas d'espèce. Sinon, les plaintes sont désorientées.
Le Cameroun a été sélectionné par le Centre pour les investissements durables de Columbia aux États-Unis comme pays de mise en œuvre du projet sur la transparence en matière foncière. Emmanuel Jountap, Yaoundé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, le campus de l'Université South Bend dans l'État d'Indiana abrite 5000 étudiants dont 10% d'étrangers. Depuis 10 ans, l'école organise chaque année un dîner de Thanksgiving pour réunir, je dirais, faciliter l'intégration des étudiants étrangers dans cette tradition des habitants d'Indiana. Le reportage d'Echa Sarai nous est présenté par Michel Joseph.
Thanksgiving est la plus importante fête traditionnelle ici aux États-Unis. Observée le dernier jeudi du mois de novembre, c'est aussi la période où les routes, les trains et les avions sont bondés. En effet, presque tous les Américains veulent se retrouver en famille pour manger la dinde et la partager avec les étrangers ou les plus démunis. Depuis plus d'une décennie, les étudiants étrangers du campus de l'Université d'Indiana à South Bend organisent cette fête traditionnelle américaine. Céline Chan est originaire de la Malaisie.
J'ai toujours lu des articles et entendu des histoires de gens disant qu'on mange toujours de la dinde à Thanksgiving. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais étant ici, j'en ai appris un peu plus et en participant à cet événement, j'ai dû me renseigner sur son origine et pourquoi nous célébrons cette fête. J'ai déjà l'eau à la bouche, j'ai vu des tartes à la citrouille et j'ai vraiment envie de les goûter, cela ne m'est jamais arrivés.
Un autre étudiant, David Pug, est aussi de la partie.
La motivation, je pense, c'est d'amener, d'initier les étudiants étrangers à la tradition de la Thanksgiving. C'est en grande partie similaire au festival de cuisine que nous organisons pour sensibiliser la communauté à la présence d'étrangers ici, parce que beaucoup de gens ne le savent pas.
Le thème du festival de la Thanksgiving cette année, sur le campus de South Bend, « Nous sommes reconnaissants d'être ici », suscite l'intérêt de beaucoup d'étudiants. Ismaïla Kalilo vient de Côte d'Ivoire. L'État d'Indiana dans le Midwest n'est pas toujours la destination favorite des étudiants étrangers, mais beaucoup se disent heureux d'être venus ici. Hadi Al-Ajmi est président de l'Association des étudiants étrangers.
Je vais recommander à tous ceux qui veulent venir aux États-Unis d'aller dans une petite ville ou un petit État. Allez à New York, vous seriez occupé par tout ce qui se passe autour de la mégapole, vous savez, c'est New York. Mais une petite ville du genre South Bend m'a aidé à me concentrer sur les études et développer mes relations avec les gens.
Et qu'on aime ou pas la nourriture, ici les participants venus du proche voisinage ou de très loin se sentent vraiment chez eux, se disent à tous « Happy Thanksgiving ».
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi à la console, Joe Gill, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à toute la rédaction, Irune Herman Longo à Washington. Un bon début de soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.